Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Canu. C'est la causerie qui prend le direct, qui n'a pas son générique ce soir, parce que ce soir on vous diffuse une interview et que ça commence. Et c'est une interview donc réalisée la semaine passée des membres du collectif Troubles Faites Malgré Nous. Et c'est un collectif en fait autour des qui est sur les violences sexuelles incestueuses. Et ben c'est une interview de 57 minutes, on vous laisse en sa compagnie et vous retrouvez dans l'interview les deux personnes qui sont là ce soir juste pour diffuser ça, c'est Fab qui est là.
Salut.
Et donc moi Jean-Yves, voilà. Et ben on vous laisse avec l'interview des membres du collectif. Bonne écoute.
Qui vous parle ? La poupée éventrée. L'enfant perdu des gars. La carnivore qui dort au coin du feu avec les mouches noires. La reine du Mardi Gras dansant en robe verte couverte de crachats. Moi qui vous parle sous un ciel étouffé. Moi qui vous parle. La bouche cousue, moi qui vous parle. Dans l'odeur du gaz avec les flippers, les marteaux piqueurs, moi qui vous parle. Les bras plus raides que des rails, les cheveux brûlés, la tête pendant, fleurs cassées sur un sarreau noir, moi qui vous parle. Qui vous parle, la bouche cousue, la bouche cousue, moi qui vous parle.
Sur les quais de Saône pour une petite interview en extérieur avec les membres du collectif Troubles Faites Malgré Nous. Nous en dirons plus tout à l'heure. Et ben on va peut-être commencer un peu chacun à se présenter et le pourquoi vous êtes dans ce collectif ou pourquoi vous avez même créé ce collectif. Et on détaillera plus après sur le collectif en lui-même et tout ça.
Bon, alors Dominique, je suis membre de ce collectif. Enfin, j'ai décidé de participer à ce collectif, non pas parce que j'ai eu des problèmes personnellement dans ma famille, parce que ma famille était tout à fait correcte avec les enfants, mais parce que j'ai eu un ami d'enfance assez jeune, qui avait à l'âge de 10-12 ans, il s'était confié à moi, il m'avait dit que son père, ce que lui faisait son père. Donc moi, j'avais dit à mon... j'avais fait intervenir mes parents toujours est-il que mes parents, on les a traités de menteurs, on a traité le gamin de menteur et finalement comme son père était quelqu'un de très connu dans la communauté protestante du Sud, c'est-à-dire c'était un pasteur très très connu, et bien voilà, on a traité le gamin de menteur, d'affabulateur, ainsi que mes parents qui ont été très mal vus, ainsi que moi aussi, donc qui a subi la galère pendant 2 mois à l'école parce que j'avais balancé, soi-disant. J'étais obligée de changer d'école, on m'a changé d'école. Donc je trouve ça, c'est normal qu'il n'y ait plus d'omerta, quoi, voilà.
Moi, c'est Sophie. Il se trouve que j'ai repris des études et fait un mémoire de recherche sur ce sujet, des violences sexuelles incestueuses. Et puis que je n'ai pas pu continuer en thèse. Ce que j'ai compris en faisant ce travail de recherche et ce à quoi j'étais confrontée dans le fait qu'on m'a barré l'accès en thèse me faisait me dire qu'il y avait quand même un gros problème de silence sur ces choses-là et de silence y compris dans les milieux militants progressistes dont je faisais partie qui sont les milieux d'extrême gauche, c'est-à-dire que on peut parler des sans-papiers, on peut parler de plein de choses, etc. Mais ça n'existe pas. Donc moi, du coup, c'était pour faire exister un peu plus collectivement ça comme sujet dans les sphères dans lesquelles j'évolue, parce qu'il me semble que il n'y a pas que la droite et il n'y a pas que l'extrême droite qui ont à s'exprimer sur ce style de sujet. Voilà. Après, je peux avoir des raisons plus personnelles pour participer au collectif, mais je dirais les raisons politiques, c'est celles-là. Après, je suis aussi proche de victimes, notamment, etc. Mais ça, je veux dire, on n'est pas forcément obligé de revenir dessus tous. Voilà.
Alors, moi, je m'appelle Anita. Je suis proche de victime, puisque c'est ma fille qui a subi des violences sexuelles incestueuses. Pendant plusieurs années, j'étais beaucoup dans l'émotionnel sur ça et je ne pouvais pas en parler. J'étais dans la réaction immédiate, soutenir juridiquement ma fille qui était mineure à l'époque pour... jusqu'à ce que le père fasse de la prison, etc. Et puis, j'étais aussi militante dans un groupe révolutionnaire, mais j'avais assumé énormément seule cette histoire, à côté des interventions politiques qui, elles, étaient prises en charge par ma cellule. Ça, c'était un problème individuel. Et puis, avec le temps, j'ai voulu prendre du recul, déjà au niveau émotionnel, arriver à mettre des noms, une analyse sur les choses, faire changer des choses qui m'avaient révoltée à l'époque dans le parcours judiciaire. Je me suis rendu compte que le nombre de violences sexuelles incestueuses était beaucoup plus gros que ce que j'imaginais, en discutant avec Sophie et avec d'autres amis. Et voilà, ça en est arrivé, ça a mûri pendant de longues années, ça s'est pas fait du jour au lendemain, qu'on a créé ce collectif pour essayer d'agir sur tout ce qui nous satisfait pas dans la société, sur ce sujet des violences incestueuses.
C'est déjà moi. Moi... Ok, moi c'est Fred. Je milite pour la libération humaine et animale et je me dis que la libération globale, ça passe par la lutte contre le patriarcat. Et pour X raisons, j'ai été sensibilisé au sujet des violences incestueuses. Et je me suis dit, il y a peu de gens qui se sont positionnés dessus, donc voilà.
Moi je vais poser la question suivante, parce que c'est à mon tour. Ma question, elle va porter plutôt sur, vous avez créé le collectif et vous l'avez créé avec une base, on va dire, assez solide pour l'instant, voilà. Mais vous faites quoi avec ce collectif une fois qu'il est créé ?
Bonne question. Oui, pour l'instant, de toute manière, on tâtonne, on avance en marchant. Je vais donner mon point de vue parce qu'on a, pas forcément un point de vue collectif bien blindé sur le sujet. Je pense que c'est mieux qu'on apporte un petit peu chacun ce qu'on en pense. Moi, ce que je me dis, c'est que déjà arriver à faire de manière régulière des discussions publiques sur le sujet, c'est déjà un pas énorme en avant, parce que ça met cette thématique sur le devant de la scène et ça habitue les milieux dans lesquels on évolue à en entendre parler et du coup à en parler aussi, parce qu'il y a vraiment un enjeu de casser ce silence, y compris et je ne donnerai jamais aucun nom, mais y compris tous les camarades qui ont soit été victimes, soit connaissent des victimes. Il y en a un nombre très important parmi nous, mais on n'en parle pas, on ne le dit pas, on n'ose pas le dire, parce que c'est aussi stigmatisant dans nos propres milieux pour l'instant. Donc déjà commencer à casser le silence sur le sujet pour que derrière les camarades ils puissent aussi casser le silence sur ce qui leur est arrivé. Voilà.
Oui, ben moi je suis tout à fait d'accord parce que j'ai discuté avec une amie qui est à Paris et qui est dans un mouvement libertaire. Et sa position, c'est oui, effectivement, c'est un problème, mais je pense qu'il faut tourner la page. Donc tourner la page, non, parce que dans ce cas-là, il faut tourner la page sur le racisme, sur l'antisémitisme, sur l'homophobie, il faut tourner la page sur tout, quoi. Mais je pense que ce côté-là, c'est encore tabou. C'est un tabou, c'est quelque chose qui se passe au sein de la famille, mais justement, il faut avoir une analyse politique. C'est pas simplement un problème de père ou de mère incestueuse, c'est aussi un problème de la structure patriarcale qui permet ce genre de choses, ou qui tolère ce genre de choses. Voilà.
Oui, juste précision à cet égard, parce qu'on pourrait se dire que bon, on s'intéresse à quelque chose d'extrêmement rare et minoritaire. La dernière enquête de l'INED et de l'INSERM, l'enquête CSF faite en 2006, montre que il y a entre une et deux femmes sur 100 qui ont subi leur première tentative de rapport ou rapport forcé par un homme de leur parenté, pour donner un simple ordre de grandeur. C'est-à-dire que ça n'inclut pas les agressions sexuelles qui ne sont pas des rapports forcés ou des tentatives de rapports forcés. Voilà.
Oui, alors moi je pars du principe très connu, pas encore assez partagé, de l'union fait la force. Je suis pas militante syndicaliste pour rien. Et je pense que sur tous les sujets, les personnes concernées doivent s'organiser déjà elles-mêmes pour arriver. Alors Sophie a parlé de briser le silence, ça c'est la première chose. Et pour se faire entendre, il faut qu'on se relie, qu'on s'organise. Et puis faire changer ce qui nous plaît pas. Ce qui nous plaît pas, il y a déjà l'inceste elle-même. Le fait de pas en parler, ça le favorise. Le fait d'en parler, ça fera changer un peu la peur de camp. Et puis, en plus d'en parler, donc agir sur. Alors, il y a beaucoup de terrains sur lesquels il faut agir. Il y a le parcours judiciaire. Alors, j'ai vécu le parcours judiciaire avec ma fille. Ça a duré 2 ans. C'est intenable. C'est entre 10 et 15 convocations avant d'arriver au procès en assises qui dure 2 journées. Parce que nous, on a obtenu un procès en assises, parce que ça, c'est encore un autre problème. Hein, tout le monde ne l'obtient pas. Il y en a beaucoup qui passent aussi en correctionnel, comme si ce n'était pas un crime. Donc 10 entre 15 convocations entre les flics, les psychiatres, et puis bon, comme ça fait un moment que ça s'est passé, j'en ai pas mal oublié. Puis tout ce qui est dur à supporter, on a tendance à gommer. Mais je me souviens que c'était très pénible. Alors pour la victime elle-même, c'est vraiment un parcours du combattant. Donc ça, il faut que ça change. Il avait été évoqué à une époque que quand une victime était entendue par la police ou par la juge d'instruction, on enregistrait où on filmerait l'entretien pour qu'elle n'ait pas à se répéter tout le temps et à revivre la chose. Et ben ça, j'ai pas l'impression que c'est encore en place. Et pourtant, ça fait plus de 15 ans qu'on en parle, mais il n'y a rien qui se passe. Ça, c'est des choses comme ça. Donc le parcours judiciaire qui est intenable. La chose que je vis très durement aussi, c'est qu'il n'y a pas du tout de prise en charge pour soutenir, soigner. Alors le mot soigner, je l'utilise avec des pincettes parce que je considère pas qu'une personne est malade, mais malgré tout elle est traumatisée par ce qui lui est arrivé quand elle a été violée. Donc il y a rien, il y a aucune structure spéciale formée, adaptée pour prendre en charge ces personnes, et c'est chacun se démerde pour trouver, pour essayer de s'en sortir. Voilà, donc ça, c'est des choses sur lesquelles on veut agir. Et pour agir, eh ben, il va falloir y aller à beaucoup, faire des lettres, des pétitions, des mouvements, des rassemblements, faire, comment on dit ça, faire changer l'opinion publique. Voilà.
Et toi, tu cherches quoi dans le groupe ?
La même chose que la camarade qui vient de parler. Je suis militant syndicaliste aussi. Je pense que si y a des syndicats pour défendre les droits des travailleurs, c'est normal que les victimes et proches de victimes se structurent aussi. collectivement pour non seulement parce que disons que la plupart des collectifs de victimes et de proches de victimes sont pas forcément sur un discours de faire évoluer la loi, sur un discours de revendication, peuvent l'être. Bon, faut pas tout généraliser, mais justement avoir une approche qui soit pas que de l'écoute, qui soit une approche revendicative de la question. Voilà.
Et alors justement, l'une d'entre vous évoquait l'idée qu'il fallait s'unir parce que l'union fait la force, mais pour s'unir, faut savoir comment on vous joint. Alors comment est-ce que on joint le collectif?
Alors, on a une adresse mail, collectif contre l'inceste. Alors, je la connais pas par cœur. Est-ce que tu l'as en tête?
Non, je ne l'ai pas en tête, mais...
Collectif contre l'inceste, en un seul mot, Lyon.
Oui.
Et à mon avis, on doit le trouver sur...
@gmail.com, mais... non, mais concrètement, on s'est créé il y a un peu moins d'un an. On commence à fonctionner et tout. Et je pense qu'il faudra qu'on discute de créer un blog aussi.
Donc pour l'instant, on va dire que c'est en mode travaux.
Voilà,
pour tout ce qui est... Voilà. Mais vous avez déjà fait une soirée, il me semble, au moins. Quel retour vous faites? Vous êtes fait de cette soirée. Est-ce que c'était à la hauteur de vos attentes ou pas? Est-ce que c'est à refaire? Alors je sais pas, peut-être on va commencer là-bas, ça changera.
Donc voilà, il y a une première soirée sur à partir de morceaux de documentaire sur voilà, je sais plus le titre. C'était général sur donc c'était présentation générale et du coup ça a permis de prendre des premiers contacts et là on va faire une deuxième soirée le 4 juin je crois sur les conséquences et la prise en charge des conséquences par la société et ce qui serait à revoir de notre point de vue dans la prise en charge des conséquences par la société. Donc ça sera toujours au même lieu, à savoir l'atelier des canulars, quelqu'un l'adresse, merci. 91 rue Montesquieu, voilà. Métro Saxe-Gambetta. Et c'est bien, la première fois, il y avait beaucoup de travailleurs sociaux qui se sentaient pas formés, donc qui avaient envie de rencontrer des militants pour se sentir un peu plus formés, je crois. Et puis quelques proches de victimes qui sont venus, qui ont parlé. Ça a été un premier contact encourageant et voilà, on espère continuer sur cette dynamique.
Et du coup, la soirée du 4 juin, elle va être plus spécifique sur quoi ?
Avant d'en venir au 4 juin, je me permets quelques compléments sur le bilan de la soirée précédente. C'est qu'il y a eu une bonne trentaine de personnes dans le public. Vous étiez là d'ailleurs. Bon, moi, ce qui m'a frappé d'une part par rapport aux soirées militantes d'extrême gauche que je fréquente par ailleurs, c'est qu'il y avait la moitié de la salle qu'on ne connaissait pas, ce qui est quand même assez intéressant au niveau militant dans les sphères d'extrême gauche. Et d'autre part, par rapport aux sphères associatives d'associations de victimes d'inceste que je connais aussi par ailleurs, ce qui m'a frappé, c'était d'un côté l'absence, hormis moi, qui du coup est un peu remplisse vide, mais l'absence de paroles de victimes, c'est-à-dire de victimes qui, d'ex-victimes qui parlent. Alors que les associations de victimes partent à partir vraiment de cette parole, c'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre de victimes dans la salle que je connaissais, mais qui n'ont pas parlé. Et ce sont des proches de victimes, en revanche, qui effectivement ont beaucoup pris la parole. Et ça, c'était intéressant parce que ça, c'est au contraire quelque chose qui manque et qui est absent dans la majorité des initiatives que parviennent à faire les associations de victimes d'inceste. Donc on a vraiment quelque chose de singulier et sur le plan de par rapport à ce qui se fait au niveau militant habituellement et par rapport à ce qui se fait au niveau associations de victimes d'inceste habituellement aussi. Vraiment quelque chose de très singulier. Je sais pas quel va être le public le 4 juin, mais en tout cas le public de cette première soirée, c'était quelque chose d'assez inédit, il me semble, sur les deux plans. Voilà.
Dominique, tu voulais rajouter quelque chose, je crois?
Oui, ben, j'ai été étonnée parce que, mis à part vous deux et puis quelques-uns que je connaissais, dans cette soirée, il n'y avait pas de militants. Il n'y avait pas de militants. Il y avait quelques-uns, mais il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait beaucoup de gens qu'on ne connaissait pas. Mais donc, ça veut dire que je regrette que ce sujet ne soit pas plus pris en charge dans l'extrême gauche. Voilà. Maintenant, c'est vrai que les victimes n'ont pas parlé, ou très peu. Mais dans les interventions, on sentait quand même qui était vu. Enfin, moi, je ne sais pas, c'est personnel, c'est subjectif, c'est tout ce qu'on veut, je peux peut-être me planter, mais on sentait ceux qui avaient été victimes. On le sentait. Voilà.
Et tu voulais rajouter quelque chose sur la soirée passée ?
Je vais répondre à votre question.
Eh ben, je te tends le micro, vas-y.
On y a déjà un peu répondu, mais on va revenir dessus. C'est-à-dire que cette fois, on a choisi l'axe des conséquences des violences sexuelles incestueuses subies dans l'enfance et de leur prise en charge. Déjà, on va partir sur un documentaire qui illustre très bien le parcours et tout ce qu'a souffert cette jeune femme qui ne s'en remet pas. Et comment vont réagir toutes les institutions auxquelles elle est confrontée, c'est-à-dire l'école, les médecins, qu'est-ce qu'il y avait encore comme institution qu'on disait ?
Il y avait la famille.
La famille. La première, on va même commencer
déjà
par ça. La réaction de la famille, de l'école et des médecins. Bon, c'est quelque chose de gratiné dans ce film, mais j'en dis pas plus.
La police.
C'est les gendarmes. Ouais. Donc prise en charge, c'est-à-dire déjà le parcours quand la victime déjà commence à parler, est-ce qu'elle va être écoutée ? Ben, c'est pas évident. Et puis la prise en charge après, en dehors de ce parcours, on va dire judiciaire, si on arrive à la plainte, la prise en charge, c'est-à-dire les soins. Toujours avec des pincettes et entre guillemets, hein, c'est-à-dire le soutien pour sortir la personne de son traumatisme, je dirais. Donc on va axer sur les conséquences et la prise en charge. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui existe et qu'est-ce qu'on doit améliorer ?
Ah, mais est-ce que tu voulais rajouter des infos par rapport à... Est-ce que vous avez plus d'infos ? Enfin, faire des compléments ?
Allez. Donc voilà, c'est à 18h à l'atelier des Canulars, 91 rue Montesquieu, Lyon 7e, métro Saxe, Gambetta, le 4 juin, c'est un samedi, et le thème c'est les violences sexuelles incestueuses, leurs conséquences et leur prise en charge. Et faut pas oublier la justice aussi dans les institutions, même si c'est, je suis pas sûr que ça apparaisse dans le film, mais ils font aussi, bon, bah ça apparaît dans le film. Et voilà, toute une conspiration des oreilles bouchées, des bouches bouchées, des yeux bouchés pour maintenir la famille qui cellule de base de la société.
Waouh.
Ah
bah
c'est bien résumé.
Ah bah oui c'est
1 2 3 1 2 3. Faudrait la forcer à danser. On n'est pas tous. tous les jours mariés à chouette flala, danse du tapis. Quelle belle liste de mariage, un autocuiseur, un aspirateur, un fer à vapeur. Et pour ce qui est du batifolage, des draps en nylon et des fleurs de chance, c'est tonton Amédée qui les a achetés. C'est le moment d'en profiter. Oh ça y est, c'est l'oncle Amédée. Pas le temps de jouer, c'est déjà gagné. Il gêne pas pour la tripoter. Ben qu'est-ce qu'elle a, elle chiale Sylvie. Pourtant une belle liste de mariage, un autocuiseur, un aspirateur, un fer à vapeur. Et pour ce qui est du batifolage, et des fleurs de chance, c'est tonton Amédée qui les a achetés.
Justement, là, on parle, on tourne autour du silence, au fait, au final, et de la visibilisation. Lorsque vous préparez une soirée ou lorsque vous préparez une intervention, est-ce que vous avez toujours l'idée d'être un peu un phare dans la nuit, comme on dit, pour aussi bien pour les personnes qui ont pu être victimes que les personnes qui sont proches. Et on note bien l'aspect politique que vous donnez à votre démarche, et il est parfait pour nous, il n'y a aucun souci, bien c'est même très important. Mais du coup, quelle interpellation vous avez vis-à-vis justement des instances politiques, syndicats, partis politiques, mouvements libertaires? Voilà, c'est deux questions en une. Donc je sais pas qui veut y répondre.
Alors j'avais jamais pensé à cette image de phare dans la nuit, mais je trouve qu'elle nous va bien. Je la reprends à notre compte. Je pense qu'on avance effectivement dans un quasi désert. Je veux pas dire désert parce qu'il y a quand même la IVI qui fait un super boulot. Mais un phare dans la nuit pour certains des projets qu'on a, oui. On pense que personne d'autre ne le fera. Et on est sûr que si nous on le fait pas, si on le propose pas et si on n'arrive pas à rassembler des gens autour de nous, ça se fera pas. On n'arrivera pas à bousculer les choses, parce que là ça fait quand même peut-être 20 ou 30 ans qu'on commence à parler de l'inceste, mais on a l'impression qu'on a avancé sur le sujet, mais on a beaucoup moins avancé que ce qu'on imagine. Et il y a même eu des reculs là. Depuis l'affaire Outreau, là, je pense qu'il y a eu des reculs.
Et donc en termes d'interpellation, c'est-à-dire est-ce que vous, je sais pas, vous faites des courriers, est-ce que vous interpellez des militants ou des militantes que vous connaissez, comment est-ce que on fait rentrer dans la tête des gens qui serait temps d'enlever justement ces bouchons aux oreilles et ces mains devant les yeux?
Eh ben, en les dessinant pour commencer, et puis en allant leur porter le petit flyer qu'on a fait, puisque on s'est réparti comme l'autre fois la liste de à peu près tous les syndicats et toutes les organisations politiques des sphères progressistes, et oui, les organisations féministes sont incluses pour moi dans les organisations politiques progressistes, et donc effectivement on va porter l'information sur nos projets. Notre prochaine projection débat. C'est assez éloquent, je trouve, des fois de voir les réactions qu'on a sur ce sujet, qu'on a sur aucun autre sujet. Moi, je me souviens, pour le 4 décembre dernier, donc notre premier débat, en ayant été posé des flyers au bar Le Court-Circuit, mais ça aurait pu être ailleurs, ça aurait pu être n'importe où ailleurs dans nos sphères. Quelqu'un qui prend le flyer, c'est quoi, qui le lit et puis qui me fait, et tout de suite qui me fait « Ah mais comment vous en êtes venu à vous intéresser à ce sujet? Vous avez été victime, machin et tout ?» C'est-à-dire tout de suite à être, bon, on n'en demande pas à des gens qui se mobilisent sur les sans-papiers s'ils sont sans-papiers. On ne demande pas à des gens qui se mobilisent peut-être un peu plus si, sur l'homosexualité, s'ils sont homosexuels. Il y a des sujets comme ça qui prêtent plus aux intrusions dans l'intimité, je dirais, des gens et dans la vie personnelle des gens que d'autres. C'est aussi pour ça que j'ai un petit peu fait exprès de ne pas répondre sur les motifs personnels au début. Mais sachant que de toute manière, à Lyon, tout le monde les connaît, dans mon cas. Mais je veux dire, il y a vraiment des choses comme ça qu'à un moment, si là j'ai un message et une interpellation à faire passer à nos camarades dans cette émission, ce sujet-là, il concerne tout le monde. Vous avez forcément des gens que vous connaissez dans votre entourage. Moi, je sais en tout cas que vous en avez un certain nombre parce que j'ai pas seulement les statistiques, mais j'ai eu aussi leurs confidences. Parce que quand vous menez une recherche sur l'inceste et quand vous commencez à bouger sur ce sujet, bah, les gens que vous avez autour de vous, ils viennent vous parler de ce qui leur est arrivé. Je dirai pas les noms, je les dirai jamais. C'est à eux de choisir s'ils veulent le dire ou pas. Mais concrètement, il y a des gens que vous connaissez, dont vous êtes proches, qui sont directement concernés, et si vous ne vous intéressez pas à ce sujet qui a directement trait à des rapports de domination, mais d'écrasement complet de pouvoir, mais dans ce cas de plus écrasant, dans ce cas de plus destructeur, là franchement il y a un problème. Il n'y a pas que la lutte de classe dans la société, même s'il y a aussi la lutte de classe.
Oui, ben tout bêtement, moi j'essaye au niveau de l'UL CGT de Villeurbanne, j'ai déjà parlé de cette parce que je suis à la commission exécutive, donc j'en ai parlé dans divers, j'ai demandé à ce que ce soit mis dans divers, donc ils ont tous fait des yeux comme ça, ils m'ont dit ah oui, évidemment c'est un problème, c'est un grave problème, mais est-ce que c'est vraiment le rôle du syndicat de s'en occuper? Or, le rôle du syndicat, c'est d'occuper des rapports de domination. C'est pas simplement la loi travail. C'est la loi travail, mais c'est aussi le problème de l'oppression de la femme et aussi le problème du statut de l'enfant dans la société. Parce que finalement, ça touche au statut de l'enfant dans la société. Or, la CGT qui parle, qu'ils ont signé la charte de l'ONU pour la protection de l'enfance, eh ben, ça rentre vraiment dans ce créneau-là, me semble-t-il. Donc, c'est peut-être là-dessus que je peux faire venir un ou deux, mais enfin je sais pas, hein. Parce que quand j'ai parlé de ça, ils ont tous papillonné des yeux, ils m'ont dit mais oh, ah oui, c'est un grave problème, mais bon, oui, mais est-ce que ça concerne vraiment le syndicat? Voilà, bah si.
Oui, ça concerne y compris le syndicalisme dans les conséquences que ça a d'une part sur le travail, parce que puisqu'on est dans les conséquences et dans le débat sur les conséquences pour le 4 juin, il y a quelque chose qui est assez peu évoqué dans les listes de conséquences faites par les psys de ces agressions là, c'est que ça a aussi des conséquences au travail. On a des rapports de pouvoir et les personnes qui ont été victimes d'inceste peuvent avoir encore beaucoup plus de problèmes avec ce pouvoir-là aussi derrière. Donc, et se retrouver dans des situations de nouveau, de subir des violences, etc. et tout, assez facilement. Donc, et avec en plus un effet d'écho au traumatisme de ce qu'elles ont vécu dans leur famille. Donc, ça, c'est aussi un aspect important à prendre en compte. Et puis, il y a aussi, et ça, c'est un problème plus général, le fait que le travail et la vie privée sont pas indépendants mais sont interdépendants, et que quand t'es battu par ton mari pour prendre un autre problème à la maison et que t'arrives le matin au travail, bah t'y arrives pas pareil que quand t'es pas battu par ton mari, et que ça c'est aussi un problème de défense des travailleurs, c'est qu'on peut pas négliger la sphère privée. Et c'est vrai qu'à la CGT, puisque bon j'y suis aussi, à la CGT je dirais on n'est pas forcément en avance sur ce genre de sujets sociaux par rapport à d'autres syndicats, et là je vais Bon, la CFDT, par exemple, se sont plus emparés de ce genre de sujet historiquement. Ils sont en retard sur d'autres sujets, on va dire, en ce moment. Mais c'est vrai que c'est... Bon, j'ai encore vu le secrétaire de l'Union régionale CFDT l'autre jour dans une occasion professionnelle. Bon, j'ai discuté avec lui du 4 juin. Il m'a dit qu'il viendrait peut-être du coup. Il m'a pas fait les hurons, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de sphères militantes qui sont un peu cloisonnées alors que ça devrait pas.
Oui, Sophie parlait des personnes qui travaillaient, mais il faut compter que dans les conséquences des violences subies dans l'enfance et le traumatisme que ça déclenche, il peut y avoir aussi l'incapacité de travailler, plus beaucoup d'autres choses, hein, des taux de suicide plus élevés que pour une personne qui n'a pas vécu ça, de l'addiction à la drogue qui est plus élevée, enfin beaucoup de conséquences.
Justement, enfin, je fais un aparté comme ça, mais on avait un peu parlé des conséquences en fait, puisque j'avais parlé du DVD que vous nous aviez fait voir longtemps après, et justement qui parle, je trouve, bah justement longtemps après, bah, qu'est-ce qu'il en reste en fait d'une telle violence en fait, quand justement on était dans le silence. Donc c'est, enfin voilà.
Justement, on va relancer avec une question un peu polémique, parce qu'on parlait des milieux et la difficulté du côté hermétique et du voilà. Et est-ce que vous avez la sensation qu'on réduit systématiquement l'inceste dans nos milieux militants, entre guillemets, comme diraient certains à l'Assemblée nationale, à un problème de bonne femme, ce qui fait qu'au final on n'a pas envie d'en parler parce qu'on se dit ouais, ça viendra après la révolution, comme on dit, non?
Oui, je pense qu'il y a de ça. Il y a des sujets qui sont considérés comme des sujets sérieux. Ça fait très bien dans les milieux progressistes de soutenir la cause kurde. Excuse-moi Fred, je sais que tu la soutiens aussi, mais je ne veux pas dire que je ne la soutiens pas non plus. Ça fait très bien de soutenir les sans-papiers. Par contre, aller soutenir les victimes d'inceste, alors là, ça paraît une autre planète. Moi qui suis passée à travers tout ça, j'arrive plus à comprendre ce point de vue, mais je me souviens d'avant où ça faisait pas partie de ma planète, et je me souviens avoir fonctionné comme ça aussi, où il y avait des causes nobles à défendre, et celle-là, c'est vrai que, et en plus c'est la sphère du privé, c'est la famille, c'est quelque chose de très dur à éradiquer, cette idée que la vie privée c'est la vie privée et qu'il y a la vie publique à côté de ça. C'est donc Oui, il y a de ça. Je dirais pas un problème de bonne femme, non. Un sujet moins sérieux, qui concerne moins les organisations politiques qui veulent être sur la place publique et voilà.
Oui. C'est que moi, ça me semble dans les sphères militantes progressistes et d'extrême gauche, donc j'inclus la gauche et l'extrême gauche, hein, ça me semble même être en deçà du sujet de bonne femme. Le féminisme, les droits des femmes, etc., c'est un sujet de bonne femme, ok. Mais ça, c'est même pas ça. C'est même pas ça. Vraiment, c'est même pas ça. C'est rien. C'est rien. C'est un non-sujet. C'est un non-sujet. C'est un truc dont c'est l'Institut pour la justice qui en parle à la rigueur. C'est un sujet pour gens d'extrême droite. C'est rien. C'est un non-sujet. De toute manière, on est anticarcéraux, donc c'est un sujet marginal. Sauf que justement, ça vient percuter aussi notre argumentaire anticarcéral et poser des questions là-dessus. Parce que quand je dis il y a une à deux femmes sur 100 qui en ont été victimes, ça veut dire combien d'agresseurs derrière. Ça veut dire que l'argumentaire classique anticarcéral, il tient pas. Donc du coup, il faut avoir une sérieuse réflexion et qui est entièrement à construire sur ce pan-là. Et le fait que ça soit un non-sujet, ça évite d'avoir à réfléchir là-dessus. Et pendant qu'on réfléchit pas là-dessus, c'est d'autres qui réfléchissent. Et je fais remarquer qu'au contraire, c'est un sujet tout à fait sérieux et important dans l'ère sécuritaire actuelle, parce que pendant qu'on nous bassine avec le fait que l'insécurité, c'est les Arabes, c'est ceci, c'est cela, l'insécurité, c'est qui? C'est mon père qui était à la CGT, c'est l'agresseur d'une telle qui était dans nos sphères militantes, c'est l'agresseur de Devilliers qui était dans la famille de Devilliers, etc. C'est aussi ça la singularité. Et là, par contre, effectivement, ça a comme caractéristique commune avec les entre guillemets sujets de bonne femme que comme c'est la sœur privée, c'est des proches, ça peut être y compris des camarades qui sont victimes mais aussi des camarades qui ont été agresseurs, donc c'est aussi emmerdant parce que du coup ça percute et que du coup le méchant c'est plus le patron, c'est plus le bourgeois. Merde, c'était mon pote quoi, merde, c'était mon ami, mais t'as vraiment fait ça, oh putain merde. Tu lui as vraiment fait ça à ta fille? Oh putain, merde quoi. C'est pour l'avoir vécu aussi de ce côté-là et sur une personne que je connaissais pas encore trop, c'est vrai qu'il y a un effet de choc quand tu découvres ça. Voilà. Et que ça fait pas le même effet que c'est plus compliqué que la lutte de classe par exemple. Mais pour revenir sur le sécuritaire. Moi, je pense qu'il y a vraiment un enjeu quand on voit l'argumentaire des pro-peines de mort qui utilise il faut rétablir la peine de mort. Si on regarde pour qui, c'est pour les violeurs d'enfants. C'est pour les violeurs d'enfants. L'argumentaire classique qu'on a développé contre la peine de mort était sur la peine de mort pour les assassins d'adultes. Donc ils ont changé d'argumentaire depuis, les pro-peines de mort. Mais nous, on n'a pas suivi dans la réplique. Et eux, ils sont en train de gagner du terrain sur des thèmes à la con, la pédophilie, et puis etc. Et puis quand on voit les groupes qui créent, finalement, on s'aperçoit que pour eux, la pédophilie, c'est les juifs et les francs-maçons qui en sont les auteurs, et les satanistes. Voilà. c'est plus dans la famille, on a un peu changé de champ, hein, ouais. Voilà, n'est-ce pas? Donc, bon, il y a quand même des choses à reposer derrière, qui devraient être un enjeu pour nous en tant que progressistes, et pointer que ben, l'insécurité, c'est justement cette putain de cellule de base de la société, selon eux, c'est-à-dire c'est la famille, la première source d'insécurité, et c'est pas les autres.
Bah, Sophie, elle fait bien d'insister. Effectivement, c'est un terrain que l'ensemble de l'extrême gauche, je veux pas dire a abandonné, mais n'a jamais occupé. Et tout ça, c'est un terrain que l'extrême droite, par contre, occupe et se délecte avec ça. Et on sait très bien que les solutions, c'est certainement pas ce que va nous préconiser l'extrême droite, qui elle est très famille. Donc eux, ils vont pas du tout analyser les mêmes les choses comme nous. Ils vont déballer tout leur sujet réactionnaire sur ce sujet-là. Et ça manque complètement. Et on en est à l'élaboration. Hein. Moi, je suis d'accord avec Sophie. On en est à l'élaboration. Que nous, il nous faut une autre parole, une autre analyse. On part pas de rien parce que le mouvement féministe des années 70, il a quand même pas mal élaboré sur la société patriarcale, et il faut continuer dans cette voie-là et parler de la place des enfants, y compris la place des enfants par rapport aux mères, parce que il y a aussi des mères incestueuses. Donc ça doit aller beaucoup plus loin que ça. Voilà.
Tu voulais rajouter quelque chose?
Je vais essayer de pas faire une réponse de bonshomme. Pour rebondir, ce qu'on appelle la pédophilie. Alors le terme pose déjà problème. Les viols et les agressions sexuelles d'enfants. Pour la droite, c'est l'éducation nationale, et pour la gauche, c'est les curés. Et la famille, ça emmerde tout le monde, parce que de droite et de gauche, la plupart des gens, ils vivent dans des familles. Et quand il y a 2 millions de victimes en France, c'est un problème politique. Du coup, on préfère dire que c'est un problème individuel, et comme c'est un problème individuel, ça participe à la silenciation du... Je sais pas si le mot il est pas terrible, mais bon, comme la silenciation des victimes, puisque en fait c'est comme c'est le problème de tout le monde, on préfère dire que c'est le problème de personne, et puis voilà, et les renvoyer à leur souffrance individuelle, mais pas aux structures de domination qui ont permis l'expression de cette violence, qui va s'exprimer ou pas s'exprimer, mais qui est latente dans la mesure où il y a une toute puissance des adultes sur les enfants.
C'est en fait, vu que vous n'êtes pas du tout dans une démarche de il y a notre collectif et le reste il n'y a rien, mais est-ce que vous pouvez rappeler peut-être certaines assos ou certains collectifs en fait qui permettent aux gens en fait de pouvoir se raccrocher peut-être à un premier contact, en fait, parce que je pense que c'est surtout ça, je pense, le plus compliqué.
Nous, on n'arrive pas dans un terrain vierge sur ce sujet, parce qu'il est vierge au niveau des militants politiques, en tout cas côté progressiste, mais il n'est pas vierge au niveau associatif, parce que, bon, dès les années 80, il y a des premières associations qui se sont montées, qui étaient les associations SOS Inceste pour Revivre, qui, je dirais, sont un petit peu issues d'une culture catholique, grosso modo. On en a une juste à côté qui est à Grenoble, qui existe encore aujourd'hui, donc qui a un groupe de parole pour les victimes. Le groupe de parole fonctionne, en tout cas pour les proches c'est par intermittence, donc qui est basé à Grenoble, et SOS Inceste pour Revivre Grenoble. À Lyon, on sait qu'il y a AIVI, donc l'Association Internationale des Victimes de l'Inceste, qui est implantée et qui a aussi un groupe de parole. Sur France entière, parce que bah du coup c'est aussi un paysage très éclaté, ce paysage associatif, et je pense que d'ailleurs c'est aussi un enjeu d'arriver à ce que il se crée des liens entre ces différentes associations concrètement, localement. Si on veut aller sur les associations qui existent en France et les forums internet, moi j'ai fait sur la page de mon site internet une page avec pas mal de liens, donc j'actualise quand on m'en envoie. Vous allez sur http://sophia.perrin.free.fr slash entrée sans accent .htm et vous allez sur la page des liens, vous avez plein de liens avec justement les associations de victimes qui existent en France et les sites internet avec des forums pour commencer à parler entre victimes. Voilà.
Et on fera en sorte que sur le blog de l'émission, on remette un lien qui envoie directement justement sur cette page aussi. Voilà.
Passe un petit mot final. J'aurais une dernière question, on va dire d'ordre générique ou général. Ça vous dirait de revenir en parler à la radio régulièrement, finalement?
On peut revenir, oui.
Non, parce qu'en fait, on se dit que c'est un média qui peut permettre aussi de diffuser. Et voilà, on va inviter les autres émissions de Radio Canu à vous inviter aussi pour que ça passe à plusieurs heures, dans plusieurs moments, dans plusieurs sphères. Et ça nous paraît important que ça le soit, de briser le silence, voilà. Et donc, on va aller sur le mot de la fin. Oui. Alors, on commence par qui pour le mot de la fin? Allez. Non? Tu as peur? Vas-y, Fred.
Mais j'ai pas de mot de la fin, moi. Je l'ai dit avant, mon mot de la fin. Bah oui, ça ne fait que commencer, là. On a un boulot énorme devant nous. On a un peu des montagnes à déplacer. Et le patriarcat, c'est une montagne. Il a quelques milliers d'années derrière lui, il est plus vieux que le capitalisme, il s'est reconstitué sans cesse au cours des siècles pour servir au mieux les systèmes de domination et nous on est un petit groupe de gens mais avec un travail énorme devant nous, voilà.
Allez, et ton mot de la fin, ce sera quoi ?
Mon mot de la fin, c'est que même si le patriarcat a duré depuis de longues années, il y a quand même des femmes archéologues qui ont découvert qu'il existait avant le patriarcat une société qui ne l'était pas et qui n'était pas matriarcale non plus. Donc ne désespérons pas.
Mon mot de la fin, c'est que pour l'instant, on est un petit collectif de quelques personnes, qu'il y a un an, on n'était pas un collectif du tout, et que dans un an, j'espère qu'on sera un collectif un peu plus nombreux, avec un réseau autour, et que du coup, on avancera.
Oui, moi je pense que on peut être qu'optimiste parce qu'on part de très très bas, quoi. Voilà. Alors on ne peut être qu'optimiste, mais c'est vrai que il y a de plus en plus de gens, une minorité, qui commencent à se poser des questions et qui se dit que peut-être, y compris dans la gauche classique, dans la gauche classique. Parce que c'est vrai que quand j'ai discuté dans le syndicat avec certains camarades, il y en a qui n'ont rien dit, mais après il y en a un qui m'a approché, qui m'a dit... Moi, ça peut être intéressant, mais il me posait certaines questions et j'ai tout à fait compris où il voulait en venir, quoi. Voilà, il voulait en venir parce que c'est vrai que... il m'a dit, de toute façon, c'est vrai que ça peut arriver à n'importe qui. Et là, il s'est arrêté, il me dirait, je t'en dirai plus après. Voilà.
Eh
oui.
Eh bien, merci pour cette interview. Rendez-vous donc le 4 juin. À l'atelier des canulars à 18h, 91 rue entrée libre, c'est ça, 91 rue Montesquieu, prix libre et à côté du métro Saxe-Gambetta. Voilà, merci pour tout.
Laissez les enfants pleurer, ne tarissez pas leurs larmes, elles lavent et le désarment ce qui les fait chavirer. Laissez les enfants verser ces ruisseaux qui les apaisent et s'en vont noyer les braises de leurs chagrins insensés. Laissez-les. Empêcher que l'on réprime cette rosée légitime. Ils ont des fleurs à arroser. Laissez les enfants pleurer avant qu'on les abîme. Laissez les enfants rêver, ne les cassez pas d'avance. Donnez-leur au moins la chance d'apprendre un jour à voler. Laissez les enfants choisir des chemins qui vous dépassent. N'effacez jamais leurs traces, vous les verrez revenir. Laissez-les. Ne souffrez pas qu'on dédaigne la lumière qui les baigne. Ils ont des richesses à donner. Laissez les enfants rêver. Laissez les enfants grandir, ne renforcez pas les cages, ne craignez pas les orages, ni les torrents à franchir. Laissez les enfants gagner le droit d'étendre leurs ailes dans la lumière nouvelle d'une vie à inventer. même ciel les rassemble. Ils ont des sommets à gravir. Laissez les enfants grandir avant qu'ils nous ressemblent.
Voilà, c'est la fin de cette causerie où on vous a diffusé une interview qu'on a réalisée la semaine dernière avec le collectif Trouble Fête Malgré Nous. Évidemment, on mettra l'ensemble de cette émission sur le blog de l'émission. Alors, on va vous le dire tout de suite, on va couper la partie ennui technique voilà, pour que vous ayez une émission qui soit plus fluide sur le blog. Mais ce sera l'émission que vous avez entendue ce soir dans son intégralité. Moins les ennuis techniques, voilà. Et ben, ce qu'on peut vous dire, c'est que le blog, c'est à blogs.radiocanu.org/lacauserie ou sur les blogs de Radio Canu. Que si vous voulez réagir, et ben, vous pouvez envoyer un mail à lacauseriecanu@gmail.com. Et si vous voulez interagir avec le collectif lyonnais, donc Trouble Fête Malgré Nous, et ben n'hésitez pas aussi à écrire soit sur leur adresse qu'ils donnent dans l'interview, soit nous envoyer un mail sur notre adresse et on leur transmettra. Et ben on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle causerie et on vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine. Salut à toutes et à tous.
Bonne soirée, bonne semaine, bon courage. À la semaine prochaine.
Ciao.
Et retour des bandes continues. Yes.